metteur en scène depuis assez longtemps. On peut dire, Hervé, que tu es, je ne sais pas si je dis beaucoup de bêtises, mais que tu as grandi, si on peut dire, dans un milieu brechtien. Tu as toujours été proche de Lausanne, de Genève, de Strasbourg d'abord, de Lausanne, de Genève. Tu vis en France, mais pas très loin. Tu travailles comme metteur en scène, entre autres choses, beaucoup dans ces régions de l'Est et des Alpes. Tu as été à un temps assez proche de Stégère, André Stégère, on peut le dire. Moi, c'est avec Stégère que je crois t'avoir connu. Je crois t'avoir rencontré, en tout cas, une des premières rencontres dont j'ai le souvenir. Il y avait André Stégère, qui est donc quelqu'un qui, dans la présence de Brecht en France, a beaucoup compté, en France ou en théâtre de langue française. Et depuis ces années-là, tu as toujours, dans les intérêts littéraires et théoriques qui ne cessent d'entourer ta pratique, d'entourer, de nourrir ta pratique de metteur en scène, de directeur de compagnie, d'animateur de lieu, mais surtout et principalement de metteur en scène, de pédagogue, voilà. Je peux dire qu'il m'a semblé que Brecht était toujours, à des titres différents, très présent. Tu t'es beaucoup occupé de théâtre contemporain, très contemporain. Tu as été parmi les premiers à monter en France, par exemple, des textes d'Heiner Müller, sauf erreur de ma part. Tu as été très proche des gens qui se sont intéressés à ces types de textes. Tu as monté aussi des textes très anciens, je vais le redire dans un instant. Mais dans cette configuration très vaste, avec une pratique très assidue de metteur en scène, une souci théorique permanent, un souci littéraire très large, je dirais qu'il m'a semblé que la référence à Brecht a toujours, à des titres divers, compté. Pour moi, en tout cas, à une époque où nous avons commencé à nous revoir, parce que si nous nous connaissons depuis très longtemps, nous nous voyons assidûment depuis peu, c'est-à-dire 15 ans à peu près, depuis très peu, à la période où nous avons commencé à nous revoir, tu avais monté un spectacle que j'ai gardé un souvenir extrêmement fort, qui comportait deux parties. Une partie où on pouvait voir La Décision, hein, de Brecht, qui est une pièce que, pour des raisons dont nous aurons à reparler, on ne voit pas souvent, hein, et que tu avais décidé, forçant un peu les interdits, comme c'est dans ta manière, tu avais décidé de monter, hein, tu as monté, donc vu La Décision, comme ça, dans une représentation publique, ce qui n'est pas très très fréquent, sauf erreur de ma part. Et puis, dans la deuxième partie de ce même spectacle, tu avais mis en scène les textes, les minutes des procès, des interrogatoires de Brecht à Hollywood, enfin aux États-Unis, où Brecht était joué d'ailleurs de façon inoubliable par Stégère, par André Stégère, qui campait un Brecht matois, faux cul à souhait, intelligent et roublard et extrêmement drôle. Tu avais fait ça probablement juste après ou juste avant, je ne sais pas, je crois que c'était juste après dans ma pratique de spectateur, avoir monté un autre spectacle que j'ai vu aussi, et je bouscule la chronologie, qui était L'Abraham sacrifiant de Théodore de Bèze. L'Abraham sacrifiant de Théodore de Bèze, qui est, sauf erreur de ma part, tu me l'as appris, une pièce didactique, hein, qui a été montée dans le milieu protestant, ce qui est très intéressant, très inattendu, avec des fins d'enseignement pédagogique, didactique, quoi. Une des premières pièces de théâtre de français, langue française moderne du XVIe siècle. Donc. Voilà. Et après, avec le compagnonnage qui est le nôtre depuis longtemps et la réflexion que je t'entends mener, j'ai pensé à te demander de venir réfléchir avec nous sur ces questions que nous nous posons depuis le mois de septembre, ici, autour de quoi ? Autour d'une question que je redis d'une phrase, hein, sans la réarticuler maintenant. Autour de ce problème, qu'est-ce que fait le théâtre à ceux qui le jouent, hein, et non pas à ceux qui le regardent. C'est-à-dire, c'est notre manière, la façon dont nous avons abordé la question du jugement, qui est la question qui est posée ici à Liri, sous l'impulsion de Bernard Stiegler. Nous, on se demande, y a-t-il une sorte de jugement de celui qui joue pendant qu'il joue? Y a-t-il une sorte de faculté de juger à l'œuvre quand on joue? Voilà ce qu'on se demande. C'est pourquoi le séminaire s'appelle « Sur la faculté de jouer ». On essaie de se poser la question à distance de la traditionnelle question du jugement doux du spectateur ou des spectateurs. On se pose la question du jugement supposé, éventuel, de ceux qui jouent quand ils jouent. C'est-à-dire qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils pensent, qu'est-ce qui leur arrive, qu'est-ce qu'ils évaluent, qu'est-ce qu'ils pratiquent quand ils jouent. Qu'est-ce qu'ils pratiquent comme jugement quand ils jouent. Alors pour ça, on s'est intéressé au théâtre pédagogique, puisque le théâtre pédagogique ou didactique est un théâtre qui est supposé être fait dans le but de produire un effet sur ceux qui le jouent, et non pas sur ceux qui le regardent. En tout cas, prioritairement, c'est supposé être fait pour ça. Et dans cette lignée, cette réflexion, eh bien, on a pensé de proposer de travailler pendant cette séance avec Hervé. Alors, bienvenue Hervé. tu n'es pas le seul à qui je voudrais souhaiter la bienvenue. Jean-Marie Valentin, qui est un éminent spécialiste de Brecht et qui est l'éditeur de Brecht dans la Pléiade et qui a été des nôtres pendant deux séances déjà au début du séminaire pour le théâtre des Jésuites. Et puis il est revenu pour la séance avec Forestier. Jean-Marie Valentin m'avait dit son intention il y a trois jours d'être des nôtres cet après-midi, mais apparemment, je ne sais pas bien. Donc, je ne sais pas, il est arrivé en retard ou pas. Bon, et puis il y a des gens qui sont souvent avec nous, d'autres moins souvent. Georges Banu, je le signale parce que Georges Banu a été aussi notre invité récemment, mais ce n'est pas à ce titre que je le signale parce que tu as beaucoup écrit sur Brecht et travaillé sur Brecht. Tu as publié des livres sur Brecht marquants. Nous avons même travaillé ensemble à un ouvrage collectif sur Brecht, qui était un ouvrage d'entretien, parmi lesquels intervenants il y avait Stégère, entre autres bons esprits. Pierre Damien, lui, qui anime un autre séminaire de Liri et que je remercie pour sa présence et que je salue, et beaucoup d'autres. Ils ne sont pas simplement, je dis simplement, les gens parmi les nouveaux venus, ceux qui nous font la joie d'être là aujourd'hui. Voilà, alors. Je voudrais proposer la méthode suivante, si ça te convient, Hervé. Je voudrais, comme tu faisais, il n'y a pas de conférence ici, d'exposé liminaire en forme de conférence. C'est convenu avec tous nos intervenants. Donc, Hervé, je voudrais te demander néanmoins, comme on l'a demandé à tout un chacun, si tu veux, sur les questions du séminaire, je pense que tu as flairé assez près. Si tu veux, et sur le rapport à moi, si tu veux ouvrir la séance en disant quelques mots, si tu peux le faire, c'est bienvenu. Après quoi, on essaiera de soulever un certain nombre de questions et de discuter ensemble. Peut-être qu'on les classera un peu, je ferai des propositions de classement tout à l'heure. À toi, Hervé, si ça te convient.
Je te remercie pour l'invitation. Elle est bonheur beaucoup. Elle est d'autant plus intimidante que. Parler dans cette enceinte, devant Denis, devant Georges Banu, devant d'autres. Si Jean-Marie Valentin venait également, je serais encore plus intimidé. Évidemment, parce qu'il connaît le théâtre des Jésuites par cœur et Brecht également. Donc, moi, je ne peux intervenir là que comme un praticien, comme un pratiquant du théâtre. Et sur un objet qui est particulièrement problématique. Il faut savoir que dans les milieux théâtraux, le terme didactique est sans doute probablement au-delà des milieux théâtraux, le terme didactique est une obscénité. Si on veut dénigrer un spectacle, on dit qu'il est trop didactique. Prétendre parler du didactisme, bon, alors a fortiori, monter des textes didactiques en les honorant, sans vouloir les détruire à la représentation, c'est être quand même, il faut bien le dire, un peu fada dans la configuration actuelle, mais pas seulement. S'intéresser au théâtre didactique pratiquement, c'est une obscénité. Voilà. Alors, de ça, probablement qu'on aura l'occasion de parler. Donc, c'est évidemment très intimidant, c'est doublement intimidant, non pas simplement parce que vous êtes là, mais parce que je prétends faire part de quelques expériences que j'ai eues sur un objet qui est vraiment tout à fait non seulement dénigré, mais même inconnu au bataillon. Enfin, hein, bon, qui monte des textes didactiques, enfin, il faut être un peu con pour ça. Donc j'ai commencé assez tôt dans cette mauvaise voie et à mon corps défendant. C'est venu comme ceci. J'étais élève à Strasbourg. Élève comédien à Strasbourg, dans une autre vie, et il m'a été donné, parce que c'était la période brechtienne, brechtoïde, enfin, je précise par la française, c'est-à-dire le début des années 70. Et il y a eu un exercice, entre autres, qui consistait à travailler sur la décision. Alors là, j'ai fait l'épreuve. Alors, si on parle de pièces didactiques, il s'agit de savoir ce qu'on y apprend, précisément sur la décision. Alors là, j'ai appris l'ennui, le dégoût du théâtre. Nous, en tant qu'élèves, nous avons vécu ça comme ça. J'ai appris, heureusement, beaucoup d'autres choses, mais dans l'instant, cela ne flattait pas l'ego du jeune comédien que j'étais, puis les autres, ils étaient comme moi, ils s'emmerdaient aussi. Ça ne flattait pas notre ego, et on était soumis à une espèce de cœur de contrôle qui était dans la salle, qui était invité. C'est-à-dire qu'aux séances où nous présentions nos travaux de répétition, il y en avait régulièrement comme ça, étaient invités des sociologues, des psychologues, des machins, des analystes, des politiques, des gens qui étaient là, une tribu. On présentait nos trucs et ensuite les gens discutaient entre eux. On avait l'impression d'être des instruments. C'était, je ne sais pas si je définis à peu près bien le truc. Ça avait été très mal vécu par les élèves que nous étions. On avait l'impression d'être totalement instrumentalisé. Donc j'ai commencé très très fort avec le didactisme, avec probablement la pièce canonique la plus importante de Brecht. La plus problématique sans doute, bon peut-être, je ne sais pas, j'ai commencé donc par un rejet absolu. J'ai eu l'impression de n'y rien avoir appris. En réalité, subrepticement, je crois que j'ai appris que le théâtre pouvait être autre chose qu'effectivement un plaisir d'exhibition et que c'était un vrai travail d'élaboration de groupe et un vrai travail d'élaboration de la pensée. Mais ça, je l'ai appris secrètement. Hein. Vous voyez bien, il y a 1000 temporalités pour le temps de l'apprentissage, précisément, ce qui pose aussi le problème des pièces didactiques. Comment j'y reviens? Parce que une fois, quand on a commencé aussi mal dans l'existence, il faut s'en remettre. J'y suis revenu. Ah, bah, écoute. Non, mais non. Non, 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 mais écoute, laisse chanter les oiseaux, excuse-moi. Ouais. C'est peut-être Jean-Marie Valentin.
Non, j'étais troublé, je n'ai pas pensé.
Mais. Et comment j'y reviens à ça? Alors, il se trouve que, maintenant je vais faire un saut considérable, il se trouve que l'invitation de Denis m'a incité à revenir un peu en arrière, à faire un peu un bilan là-dessus, et effectivement, j'ai été amené à travailler précisément, à retravailler 4, 5, 6 fois, je ne sais plus, la décision dans différentes circonstances, à travailler l'importance d'être d'accord, à monter plusieurs fois Abraham sacrifiant de Bèze, de Théodore de Bèze, en faire en tout cas deux mises en scène dans des institutions, enfin, et à monter Mauser de Müller, je ne sais pas, 5 ou 6 fois, Horace et même Philoctète. Dans tous ces travaux-là, je me dis, au bout du compte, tout cela, ce sont des pièces extrêmement différentes, mais en même temps, des pièces didactiques. Ça fait un paquet de travaux. Hein. Je me suis dit que j'étais un monomaniaque, mais heureusement, j'ai fait d'autres choses. Je n'ai pas fait que ça. Il se trouve que j'en ai beaucoup fait. Je ne me suis pas avisé, ce n'était pas prémédité, ce n'est pas un dessin, une espèce d'obsession comme ça, d'obsession peut-être, mais ce n'était pas un plan de carrière pour me singulariser du reste de la profession en disant, tiens, je vais travailler didactiste puisque personne n'en veut. Hein. C'est pas, je fais les comptes, non pas en fin de vie, mais au bout d'un certain temps, puis on se dit, j'en ai monté beaucoup. Alors, comment j'y suis revenu? Par ceci, je m'excuse, hein, je parle de moi, parce que si on parle du didactisme, il s'agit de savoir quelle relation on a et qu'est-ce qu'on y apprend en chemin faisant. Hein. Donc j'en ai fini. Hein. J'y suis revenu par l'admiration, la complicité, l'amitié que puis la bienveillance dont il a bien voulu me gratifier de Jean Jourdeuil. C'est Jean Jourdeuil qui m'a fait, que j'ai connu à la milieu des années 70 et qui m'a fait découvrir Müller. Et il se trouve que c'est comme ça que je suis tombé sur Müller, auquel je comprenais évidemment rien du tout, surtout à la fin des années 70. C'était vraiment un ovni. Et il se trouve que Müller a déclaré à plusieurs reprises que pour lui, La Décision était peut-être l'œuvre la plus importante du XXe siècle. Alors évidemment, à partir du moment où Müller disait ceci, j'étais obligé de m'interroger sur mon expérience précédente concernant La Décision, j'y suis donc revenu. Et je me suis mis à retravailler ça, mais vous voyez bien, vous savez bien, mais on l'avoue rarement simplement dans le théâtre. On veut toujours être, il y a désormais, les us et coutumes du théâtre veulent que chacun se prétend à l'origine de lui-même, alors que simplement les idées se transmettent. Moi je dis d'où ça vient de Jourdeuil, ça vient de Müller, et c'est bien de dire d'où, comment circulent les idées, hein, et de ne pas prétendre qu'on est autosuffisant, quoi. C'est avec Müller, et dans la tentative que j'ai, les tentatives multiples que j'ai eues de voir clair dans certains textes, que je suis revenu à Brecht. Vous voyez, c'est pas... Le premier rapport à Brecht était un rapport assez dégoûtant. En plus, c'était l'époque où, pour remplir les sièges des théâtres, un théâtre était obligé de mettre à l'affiche, un théâtre digne de ce nom, un peu intelligent, de mettre à l'affiche une pièce de Brecht. Brecht était un classique du commerce à ce moment-là. Je caricature à peine. Hein. Bon. Tout ça me plaisait pas beaucoup. Et je suis donc venu à Brecht par la partie la plus aride, la plus difficile, avec le regard ou à travers les écrits de Müller. Je ne sais pas si c'est une garantie de qualité, hein, c'est simplement, je dis comment ça s'est passé dans la filiation. Il se trouve que parallèlement, j'étais tombé sur un autre texte qui pour moi n'avait rien à voir à ce moment-là, c'était à la fin des années 70 aussi, tout à fait par hasard dans une bibliothèque, je suis tombé sur Abraham sacrifiant de Théodore de Bèze. J'étais à Genève et Benno Besson m'a donné l'occasion de monter ce texte dans un théâtre avec des moyens. Ça devait être en 82 ou 3, quelque chose comme ça. J'en ai fini. Juste pour la présentation, je dis donc que je ne suis pas un spécialiste de Brecht, je ne peux pas parler en tant que spécialiste du didactisme. C'est un univers très très compliqué, qui est problématique vraiment, qui est un problème à débattre. Et puis dernière chose, qui est circonstance aggravante, je ne parle pas un mot d'allemand, alors que j'ai monté peut-être 10 ou j'ai fait 10 ou 15 spectacles sur des textes de Müller, j'ai monté Kleist, Büchner, etc., et je ne parle pas un traître mot d'allemand. Donc je ne connais de Brecht que les traductions. C'est un handicapé, il faut l'admettre, c'est tout. Voilà.
Merci Hervé. Alors pour notre conversation, je crois qu'il y a, moi je vais proposer un peu de mise en ordre très factice, hein, et d'ailleurs un peu intenable en un certain sens. Mais bon, autour du mot de didactisme, il y a mon didactisme associé à Brecht. Ah Jean-Marie, bonjour, bienvenue. Mes inquiétions. Est-ce qu'il y a eu un malentendu sur la salle?
C'est le trajet.
Ah, bienvenue, très heureux de...
Ne m'interrompez pas, surtout.
Non, non, mais j'avais à la fois annoncé votre venue et puis le fait que...
Eh ben voilà, c'est pour le théâtre, hein.
Oui, voilà. Alors, Hervé Wachmoll vient de dire quelques mots du point de vue du praticien qu'il est sur le ce qui l'a conduit à s'intéresser aux pièces de Brecht en général, aux pièces didactiques en particulier, et à d'autres œuvres qu'on pourrait dire didactiques au-delà de Brecht, bien avant et bien après. Alors, moi je voudrais maintenant qu'on classe un peu nos thèmes de conversation, hein, parce que il y en a plusieurs. Il y en a deux grandes familles qu'on pourrait déjà voir, même si j'ai bien conscience que leur séparation est artificielle et factice. Mais néanmoins, je crois qu'il faut, en tout cas, moi, il me semble que pour avoir un tout petit peu de clarté dans notre conversation, il faut les séparer. Il y a ce qu'on pourrait appeler la pratique du théâtre didactique, telle qu'elle apparaît éventuellement dans la pratique de Brecht, dans les idées de Brecht, dans les textes de Brecht, et dans ce que toi, praticien, tu as pu en faire, ou peut-être dans d'autres expériences, dont certains ont pu être les témoins, voire les participants, je ne sais pas, autour de la table. Si on appelle didactique, théâtre conçu principalement pour ceux qui le jouent, hein, pour l'instant. Alors, retenons un peu cette acception. Bien sûr, il n'y a pas que cette acception du mot didactique à propos du théâtre et à propos du théâtre de Brecht. Bien sûr, hein, on va sans doute en parler. Non, mais parlons de ça. Voilà, c'est-à-dire que notre question sur le... qu'est-ce que fait le théâtre à ceux qui le jouent? Voilà, ça c'est une première question, dans le contexte brechtien. On peut se poser dans le contexte brechtien. Par rapport à ça, moi j'aurais des questions à te poser, par exemple. Tu as eu, apparemment, au moins, tu es le premier autour avant ce séminaire, l'expérience de la pédagogie en tant qu'élève, puisque on n'arrête pas de parler de qu'est-ce que ça fait aux élèves acteurs de jouer des pièces. Toi, apparemment, tu es rentré là-dedans en jouant la décision au TNS, enfin en travaillant sur la décision au TNS, donc en tant que comédien. Donc en fait, t'es à la limite, jusqu'à ce jour, tu es le seul, en tout cas le seul déclaré, qui pourrait nous dire quelque chose de ce qui se passe quand on est le, si tu veux, le champ de l'expérience de cet ordre. Mais je pourrais te demander, est-ce que tu as monté la décision ou telle autre œuvre didactique dans un contexte pédagogique? Tu as été pédagogue, responsable de l'institution pédagogique, tu as été responsable de la section professionnelle du Conservatoire de Lausanne, tu as, dans laquelle tu as enseigné, dirigé, bon, est-ce qu'il t'est arrivé de mener ce genre d'expérience? Voilà, avec ce type de propos, hein, c'est-à-dire théâtre fait pour ceux qui le jouent et on essaie d'obtenir un certain effet sur ceux qui le jouent, en se disant ça pourra être présenté éventuellement après, mais c'est pas l'objet principal, c'est pas l'objet premier. Bon, ça c'est le premier champ. Deuxième champ, c'est une séparation très artificielle, ça serait la dramaturgie de la pièce didactique chez Brecht, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe dans ces textes, hein, et il se passe infiniment de choses, problématiques, pas problématiques, compliquées, pas compliquées, attirantes, repoussantes, enfin voilà, et sans doute que la décision est au centre de cette affaire, pour mille raisons, hein, bon, pour mille raisons. Mais voilà, ça c'est le deuxième champ. Je sais bien qu'on peut difficilement parler du premier, surtout à propos de Brecht, sans évoquer le second, et inversement, il est difficile d'évoquer le second sans évoquer le premier. Mais je propose quand même qu'on essaye de séparer les choses. Alors, si vous me permettez, qu'est-ce qui est le plus logique? De commencer par le deuxième champ, les pièces didactiques, la pratique didactique. Qu'est-ce qui vous paraît le plus logique? Toi, Hervé, tu commencerais le plus volontiers par quoi? Puisque tu étais le premier à avoir été ici. Parce qu'il y a les deux choses, hein, qui sont possibles. Hein.
Je ne sais pas. Il vaut mieux commencer par le texte, par la construction chez Brecht.
Par les pièces didactiques. Tu penses qu'on commence par les pièces didactiques?
Moi, je pense, oui, parce que ce que tout à l'heure, quand tu disais le didactique aujourd'hui dans le théâtre, c'est considéré comme une insulte parce qu'on dit les spectateurs, on fait la leçon aux spectateurs. Hein. Comme aujourd'hui, il faut faire la leçon sur rien du tout. Il faut surtout en dire le moins possible. C'est le moins disant culturel. Ça s'adresse à cette relation-là. Chez Brecht, alors, ce qui en fait, me semble-t-il, la singularité, c'est que lui définit le didactisme par rapport à ceux qui doivent le jouer. C'est pour ça qu'il dit qu'il n'y a pas besoin de spectateurs. Moi, je n'ai pas eu totalement cette expérience-là. C'est-à-dire que quand je l'ai monté professionnellement, précisément, il y avait un public. Tu l'as vu, c'est la présentation à laquelle tu faisais allusion. Et quand je l'ai monté avec des élèves, évidemment, il y avait une petite présentation in fine, quoi, à la fin du travail. Hein. Mais, donc ça n'a jamais été simplement, je ne l'ai jamais vraiment fait à usage fermé. Hein. Ni Brecht, ni Müller. Hein. Parce que Müller, on peut dire qu'il reprend la. Oui. Il reprend le didactisme brechtien, hein, quand il, enfin en tout cas dans ses didascalies, c'est très clair.
Alors moi j'ai une question à poser.
Moi, j'ai une chose. Oui. Moi j'ai fait une expérience.
Oui.
Où le seul spectateur c'était moi et un autre ami à toi particulièrement.
Qui derrière son terrain toi dans le groupe de RD.
Parce que nous avons eu une proposition donc de faire un stage au Bénin. Et en général, il y a toujours des malentendus avec les stages, tout ça. Et moi, j'ai dit à Patrick, écoute, moi je viens à condition qu'on travaille sur une pièce didactique. Donc, où, au lieu d'enseigner à nous quelque chose, les Africains, qui étaient tous les Africains de l'Afrique ouest, étaient réunis au Bénin, et on a proposé de travailler sur celui qui dit oui et celui qui dit non, simultanément, et là il n'y avait aucun spectateur. Par contre, ce qui m'a semblé tout à fait intéressant, parce que c'était extraordinaire, pour une fois, l'effet de la pièce didactique, c'est que c'était d'abord un problème physique, plus qu'un problème linguistique, c'est qu'on était en dehors d'une ville, et ces acteurs devaient s'approprier un peu la langue de la pièce, et deuxièmement, l'idée que nous avons eue avec Patrick, c'était de leur proposer d'élaborer eux-mêmes le dispositif spatial. Ce qui faisait que, dans celui qui dit non, celui qui dit oui, je ne sais pas si vous connaissez la pièce, parle pour les autres, pas pour nous, donc c'est une histoire très compliquée, c'est un village est frappé d'une épidémie, et il s'agit d'organiser une expédition pour chercher des remèdes, et dans cette expédition sont engagés des jeunes gens assez forts, mais il y a un jeune homme qui veut absolument se joindre à l'expédition, et Brecht écrit deux variantes en s'inspirant d'une œuvre japonaise sur celui qui dit oui et celui qui dit non. Donc, moi je trouvais que c'était extrêmement intéressant parce que d'abord, ils choisissaient eux-mêmes l'espace. C'était pas l'espace simplement la salle de travail, mais donc il y avait ça. Et deuxièmement, on avait constitué des équipes. Et moi, c'est pour ça que je suis d'accord avec ce que vous dites là. Je pense que le thème de la didactique pourrait être traduit aujourd'hui par peut-être d'autres formations, des formations qui est moins accompagnée de connotations négatives. Parce qu'au fond, ce qui était extrêmement intéressant, c'est qu'ils jouaient la situation, mais en même temps, les autres étaient témoins après avoir joué. Donc, personne n'était tout à fait spectateur. Chacun faisait l'expérience à tour de rôle. Donc, c'était un contexte extraordinaire où moi, je n'étais pas. Donc, chacun était, sauf particulièrement fait moi, chacun jouait et ensuite devenait spectateur. Donc, il y avait d'un côté l'expérience du jeu et de l'autre côté une parole critique qui était fondée sur l'expérience déjà effectuée. Donc ça c'est une chose qui m'a beaucoup touché, c'est le fait que ça a fonctionné très très bien. La deuxième chose c'est que on leur a posé, pour eux c'était vraiment un problème vraiment de vie et de mort en Afrique. Faut-il sacrifier un enfant ou non pour chercher des remèdes? Et ça c'était passionnant parce qu'après avoir fait cette expérience, les avis étaient vraiment partagés. Vraiment ça a suscité un débat et c'était passionnant de voir à quel point le collectif pour certains devait l'emporter sur l'individu ou non, mais c'était pas sur le plan simplement intellectuel. Et troisièmement, ce qui a été pour moi aussi très très intéressant, c'est qu'on a eu, ça c'est moi qui ai eu l'idée, de faire ce que voulait faire Brecht, que tout passe par le physique. Parce que moi je me suis rendu compte qu'ils avaient des difficultés énormes avec la langue. Donc bon, c'était en français, comme vous disiez, c'est un peu traduit, comme ça c'est difficile. Et à un moment donné, on a dit, jouez chacun dans vos dialectes. Et tout d'un coup, même maintenant, je l'ai l'institution, tout le monde a été. Il y a eu une sorte d'exaltation parce que tout d'un coup, ces gens qui étaient eux-mêmes de semi-professionnels se trouvaient à l'aise dans la langue, dans leur propre langue, et à ce moment-là, le fait de jouer devenait à la fois une expérience concrète de chacun des acteurs, et en même temps une sorte de réconciliation avec la langue locale de chacun. Et qu'il n'y avait plus la langue unifiante, le français qui leur posait problème. Donc moi, c'est la seule expérience que j'ai vécue, et je peux l'attester ici, c'est pour ça que je suis venu, parce que je voulais leur rendre hommage, ça a été extraordinaire. On a travaillé 10 jours seulement sur celui qui dit oui, celui qui dit non. Patrick leur faisait faire aussi des exercices, et j'ai compris qu'au fond, dans un certain milieu, qui était un peu le milieu de l'école d'Ivry, de Vitesse. Vitesse envisageait aussi de travailler sur le pays didactique. C'est que des gens qui ont le désir du théâtre, mais qui ne veulent pas forcément... c'est que ce n'est pas vraiment des amateurs purs. Nous, on s'est rendu compte que ce qui était intéressant, ce dont Brecht ne parle pas, c'est que c'est très intéressant d'avoir l'expérience pratique et l'intervention critique des spectateurs qui avaient déjà eux-mêmes l'expérience pratique. C'est que ne pas concevoir la pièce didactique comme une expérience uniquement pratique, mais avoir reconstitué le dispositif acteur-spectateur, mais en faisant en sorte que tout le monde passe par l'expérience du jeu. Donc c'est notre expérience du Bénin qui, pour une fois, a été un stage réussi. Le propre des stages, c'est...
Alors, qu'est-ce que Brecht attendait pour parler, pour commencer un peu par un peu d'information? Qu'est-ce que Brecht attendait de ces pièces? Qu'est-ce qu'il en voulait?
Je crois qu'il répond, mais c'est une réponse qui va être forcément un peu imprécise, parce que c'est une définition qui se construit. Hein, il n'est pas parti d'un modèle comme ça, créé. À partir duquel il allait construire des exercices. Bon. D'abord, il y a l'idée d'exercice, qui est une idée plus ancienne qu'on trouve dans le lyrisme. Et tout ça, c'est la deuxième partie des années 20. Donc, années 26, 27, 28, 29. Hein. Et qu'on trouve dans le lyrisme, justement, où il reprend, curieusement, je vous explique certaines filiations qui vous ont étonné chez moi, mais l'idée des exercices spirituels. Hein, donc, il y a de Viola, etc. Littérature espagnole et catholique, qui connaissait aussi, donc littérature religieuse, où effectivement l'exercitant, il dit la Übende, il reprend d'ailleurs le terme dans la Haute Postillée, n'est-ce pas? C'est vrai que par lyrique, il reprend la terminologie classique, hein, l'homme qui fait l'exercice, et qui est dirigé par un maître des exercices, qui est en quelque sorte autour de lui. Donc par exemple, le fameux poème Les lacs et les fleuves, etc., n'est-ce pas? C'est une démonstration, une application au contact avec la nature, pour ne pas se perdre dans la nature, dans sa propre vie ou autre, hein, l'introduction de la réflexion permanente. Je crois que l'idée d'introduire tout de suite la réflexion, l'aspect critique, le recul critique, y compris par celui qui fait l'exercice, c'est une donnée de départ. Hein. En revanche, la forme, on ne sait pas. Hein. Il y vient lui-même, pourquoi? C'est dans le cadre du festival de Baden-Baden. Il faut quand même penser que c'est la musique d'avant-garde, c'est la Neue Musik. Hein. Donc, avec des musiciens, avec Hindemith, et après ça sera Eisler, etc., Weill, qui va concevoir cette idée de petits opéras. Au fond, hein. Je joue au pas, c'est l'idée d'avoir des opéras didactiques, hein, qui va partir. Alors, c'est l'avantage, c'est d'avoir un petit nombre d'acteurs, un petit nombre d'instrumentistes. Vous savez que c'est l'époque où on introduit des petits orchestres, 6, 8 musiciens maximum, avec banjo, etc., un peu américanisé, etc. Et c'est quand même parti de là. Donc, quelle est l'idée? C'est de rompre avec l'idée du concert. Hein, parce qu'il y a toujours cette idée, et plus loin encore, de rompre avec la représentation de l'opéra type Wagner, qui est sa grande cible. Hein, enfin, toute la tradition romantique pour ce moment. Voilà. Donc il faut réactiver les publics. Et ça, c'est une notion qu'il a partout. Bon. Alors, les exercices qu'il fait, le « yes, I've got nine », celui qui dit oui, celui qui dit non, c'est évidemment un cas remarquable, parce qu'il a les deux hypothèses. Hein. Et là, on voit bien que le travail des acteurs va devenir prépondérant. À mon avis, son idée au début, enfin, ça c'est une question de querelle dans la critique, hein, mais certainement son idée, c'était de passer au-delà de la scission entre scène et salle. Ça c'est absolument une idée qui court chez lui, qu'il a certainement abandonné dans les grandes paraboles, hein, mais qui est permanente, parce que même dans tous les écrits théoriques, jusqu'à la fin, il dit au fond, il faut que le public soit un co-créateur hein, de l'œuvre. Hein. Alors, je crois qu'on ne peut pas oublier cette participation que Georges Vallier vient de mettre en évidence, parce qu'elle est, certainement constitutive du genre, hein, si c'est un genre, c'est une pratique. Alors, c'est ce qu'a dit la critique là-dessus, parce que la querelle est venue, non pas de Brecht lui-même, mais des pratiques, effectivement. Donc, ça a été extrêmement partagé. On peut dire, évidemment, toute la critique traditionnelle conservatrice s'est opposée, mais aussi une partie des critiques marxistes, hein, qui, eux, voulaient tout simplement le schéma traditionnel, mais où on donne, boum, boum, hein, l'enseignement. C'est-à-dire l'élaboration par les acteurs n'était pas prise en compte. Alors, ce qu'a fait Steinbeck, puisque c'est lui qu'il faut parler, c'était justement de remettre au premier plan ce travail des acteurs.
Qui était
Rainer Steinbeck, dans les années 70. Hein, alors, il a fait vraiment beaucoup de bruit dans la critique, à ce moment-là. Il a dit non, Brecht, c'est pas le théâtre épique, c'est pas ça qui est important. Ce qu'il a voulu faire, au fond, c'est le théâtre didactique au sens du Lehrstück, hein, au sens donc étroit, précis du terme, hein, et pas le théâtre qui enseigne. D'abord le Lehrstück, hein, avec son caractère expérimental, avec son caractère éventuellement fragmentaire, hein, ce qu'il n'a pas vu faire pour des raisons historiques. Alors, bon, ça c'est un problème avec Brecht, c'est-à-dire que cette biographie peut être mal donnée par l'histoire, et qu'il n'a pas pu se tenir à une ligne. Hein. Et je pense que, quand même, il souhaitait avoir une action très prépondérante. Alors, pourquoi passer sur cette forme beaucoup plus ramassée, c'est une forme ramassée, il nécessite peu de moyens, mais il le dit, alors là on a quand même quelques textes de lui, hein, il dit il ne faut pas perdre tout ce qui est la Anschaulichkeit, c'est-à-dire tout ce qui est le côté visible, matériel du théâtre. Hein. Si vous désincarnez ça en idée pure, c'est raté. C'est raté. Il faut que ça passe vraiment, c'est un médium, le théâtre là, et la substance doit être une substance théâtrale.
Expérience auquel vous faites référence, un petit moment de l'histoire qui nous rafraîchit en fait. Enfin, ces premières expériences, donc, on est frappé quand on lit des didactiques, peut-être qu'elles sont quand même tout, sauf erreur, on est là, on s'en va tous, ils sont bien, et avec 34, on aura cette curiosité, qui me fie à l'adaptation, là, pour le suivant. Pas 28-31, c'est pas n'importe quelle époque historique, on en verra peu de mots, c'est très frappant. Pendant cette période-là, qu'est-ce qu'il s'agit de faire? Vous parlez d'un festival du festival de musique de Baden-Baden, donc j'imagine la pièce classique de Baden-Baden.
Voilà.
Mais il s'agissait de quoi?
Il s'appelait d'ailleurs simplement Lehrstück.
Oui,
le premier titre c'était Lehrstück.
Il s'agissait de travailler avec les gens pour les gens et puis après de le présenter. Comment ça se passait? Quel était le. C'était pas des choses qui étaient en milieu fermé.
Non. La préparation était en milieu fermé. Mais ça a beaucoup de
À des représentations, donc c'est pour pouvoir parler de critique, de race critique,
absolument.
D'accueil critique. Et les acteurs de ça, c'était qui c'est bon qui travaillait, qui faisait les vies en appliqué dans ce didactique-là, c'est quoi? C'est professionnel.
Tout ça, ça a été composé par des chorales ouvrières.
Oui, par les chorales. C'est tout le mouvement des grandes chorales. Hein.
Très nombreux.
C'est-à-dire le cercle pour les
millions.
Voilà.
Ça tient à la radicalisation du mouvement.
Oui, et puis alors, l'idée aussi, c'est de dire le cœur, au fond, hein, comme structure unanime, qui paraît régler et finalement abolir ou dépasser les conflits. Ce cœur-là, il faut le faire sauter. Hein. Il faut introduire, ça c'est très précis, au fond, introduire des coins dedans, introduire des brisures, des ruptures, etc. etc. Et dans l'idée même du Lehrstück, il y a cette idée-là. Hein. C'est-à-dire il se sert de quelque chose qui, même à gauche, au fond, disons une partie socialiste démocrate qui est une formidable machine, hein, il faut pas du tout les partis français. Ils ont tout, ils ils ont les chorales, ils ont les coopératives, ils ont les assurances, ils ont tout ce que vous voulez, les compagnies de funèbres, tout. Hein. Ce sont d'énormes morceaux de la société. Ils les voient comme des morceaux construits, et il n'est pas d'accord avec. Pas. Donc, ils pensent qu'en introduisant un type de spectacle qui introduit la question de l'accord ou du désaccord, c'est quand même toujours ça, et donc de l'individu et du groupe, qui devient un collectif, qui peut devenir le tribunal, juge, qui peut devenir aussi une partie, d'ailleurs. Hein. C'est là le questionnement qui n'a pas été évidemment toujours suivi. Ce qui dit maintenant, au fond, c'est presque un cas idéal, mais c'est excessivement idéal, donc, mon esprit. Hein. C'est-à-dire que je trouve les premières pièces là plus intéressantes, puisque par exemple le cas de Lindbergh, hein, qui est un des deux premiers, hein, l'autre c'est celui de Baden-Baden, on dit en français, l'importance d'être d'accord, hein, comme Einverständnis. Hein. Celui de Lindbergh, au fond, on veut partir du personnage héroïque, c'est moi, etc. Hein, biceps, triceps, quadriceps, comme dit Benigni, biceps. Donc le costaud, etc., le héros, l'héroïsation, et il va partir de ça et complètement inverser le schéma. C'est-à-dire là, c'est plutôt l'idée de la domination sur les forces naturelles exercées par l'esprit humain, par l'esprit scientifique. Et à ce moment-là, il n'y a plus de héros. Hein, le devenir des héros, c'est un flou, c'est-à-dire simplement le vol au-dessus de l'océan, en plus des raisons historiques pour l'expulsion de l'univers. Et dans l'autre cas, c'est vraiment la question de l'accord.
Justement, je pense aussi que moi, en travaillant ce stage assez attentivement, je crois que c'est la question de l'accord, mais en même temps, l'écriture de Brecht est assez subtile pour inviter les praticiens à faire la différence. Parce qu'on a tendance à dire celui qui dit oui, celui qui dit non, c'est comme on dit. Clairement, qui fait bourrico. Donc, une fois on dit oui, on dit non. Au fond, la lecture attentive et la pratique du jeu vous montre que ce sont deux situations différentes et qui ont l'apparence d'être similaires et que, au fond, l'exercice, avant d'être d'accord ou de ne pas être d'accord, c'est d'analyser dans le moindre détail le changement de la situation. Parce que dans la première situation, donc dans celui qui dit oui, donc je suis prêt à être sacrifié pour que l'expédition continue, là la maladie est incurable. Donc c'est le collectif, le village est menacé. Dans la deuxième pièce, Brecht précise que la maladie n'est pas incurable, que la maladie peut attendre. Et donc là, quand l'enfant la deuxième fois dit on a pris un engagement, mais notre force consiste à revoir l'engagement parce que nouvelle situation, nouvelle réponse. Brecht invite, je crois, dans l'acte à l'analyse concrète des différences. Des différences. C'est que être d'accord ou ne pas être d'accord, c'est pas deux réponses à la même situation. Ce sont deux réponses différentes à la suite de l'affinement de l'analyse et de la perception du besoin de sacrifice. Et donc, je pense aussi qu'il y a cette problématique, mais il y a l'autre, la problématique de la culpabilité, dont la décision, la question se pose, parce que la dernière phrase de celui qui dit oui, donc celui qui dit non, ils rentrèrent tous ensemble, nul plus coupable que l'autre. Donc, je pense que nous sommes. Je crois que c'est très important à l'époque. La question de la culpabilité est essentielle dans la décision.
Donc tout à fait d'accord. Un des aspects qui rend encore intéressant à l'analyse, et sans doute au jeu, hein, le fait que ce soit des situations modifiées. Parce que s'il n'y avait que l'inversion, oui ou non, bon, on retomberait dans des formes. Oui, voilà, c'est primitif.
Est-ce qu'il y a autour de ce rapport historique, disons, au brechtisme didactique, est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a des questions, déclarations parmi vous sur cette des réactions lesbiennes?
Est-ce que toi, tu es aussi politique qu'on peut se poser, pourquoi le parti a été. Non, parce que là, il y a une réflexion plus vaste que le terme. pourquoi le parti a été si réfractaire à la théorie des pieds didactiques.
La théorie était constante. Les idées viennent d'un enseignement direct.
De
quoi ? D'un enseignement direct et positif.
Voilà.
L'instance suprême, que c'est en quelque sorte de vérité, je crois que c'était une contestation intérieure, qui fait que il a été traité d'utopique, ce qui d'une certaine façon l'est aussi, ce sont des cas imaginaires, pour une société qui serait déjà socialiste. Et où donc on continuerait à débattre, parce que ça ne veut pas dire, société socialiste, que tout s'arrête. Les questions commencent, enfin d'autres questions commencent. C'était aussi une idée assez, assez constante. Et c'est pourquoi il y revient d'ailleurs en RDA, l'intéressant. Il va revenir à l'idée de reprendre, ce sont les fragments comme ça, etc. Mais il dit des mêmes que j'avais. Et il dit, et bon, il dit, le théâtre de l'avenir, alors il parodie certainement la musique d'Absolkunst de Wagner, le théâtre d'Absolkunst, c'est non pas d'être étiqueté à la place de lire.
Le cadre de l'éthique est aussi une forme de
oui.
C'est bien le rêve. Et il rêvait aussi de mettre en scène de l'eau pour le bien de l'éthique. Tout à fait.
Mais alors, qu'est-ce que ça fait, Hervé ? Qu'est-ce que tu pouvais faire ? Qu'est-ce que tu dois faire ? Soit pour dans le cercle du projet, soit ailleurs, de jouer ces pièces, de jouer le bien de l'éthique. On a l'impression qu'il a écrit le programme de notre séminaire, puisqu'on lit à la page 349 de l'édition, l'ancienne édition que j'ai ici, qui est maintenant complètement caduque et obsolète, puisqu'on a l'édition de la Pléiade maintenant que vous avez. Regardez, à propos de chacun des quatre acteurs, c'est sur la décision. On doit avoir l'occasion de montrer une fois le comportement du jeune camarade. C'est-à-dire celui qui va être... La décision, c'est la décision de... Ça, parce que tout le monde n'a pas forcément cette pièce à l'esprit. Hein. C'est la décision d'exécuter un jeune camarade dans un groupe d'agitateurs, un jeune camarade extrêmement plein de bonnes intentions, de bonne volonté, mais qui met en danger par son comportement et qui compromet l'ensemble du groupe et donc la réussite des tâches révolutionnaires. Donc chacun des quatre acteurs doit avoir l'occasion de montrer une fois le comportement du jeune camarade. Chaque acteur doit jouer par conséquent une des quatre scènes principales du jeune camarade. Et puis alors voilà ce qui pourrait presque valoir comme programme, comme charte pour notre travail. Les démonstrateurs, chanteurs et acteurs. Les démonstrateurs, je ne sais pas quel est le mot allemand. Les démonstrateurs, chanteurs et acteurs ont pour tâche d'enseigner en s'instruisant. Comme il y a en Allemagne 500 000 de chanteurs ouvriers, la question qu'est-ce qui se passe en celui qui chante est au moins aussi importante que la question qu'est-ce qui se passe en celui qui écoute. On ne peut pas rêver mieux par rapport à notre objet. Qu'est-ce qui se passe en celui qui chante ? Alors qu'est-ce qui se passe en celui qui chante ? Bon, excusez-moi, obstinément depuis le début de l'année, je pose cette question. Alors, je me tourne un peu vers toi. D'abord, au comédien que tu nous as vu, c'est-à-dire le dégoût, bon, le comédien que tu étais, non. Et ou peut-être ce que tu peux imaginer, ou ce que tu as pu rechercher, ou ce que tu as pu. Est-ce que tu as une idée de qu'est-ce que. Alors là, l'expérience que relate Georges est précieuse, évidemment, puisque c'est marrant le lien, puisque. Donc, Patrick Lemouf, qui était animateur de cette expérience, donc dans le groupe qui jouait la décision avec toi, sauf erreur, hein, dans ce groupe dont tu parles, dans ce groupe révolté dont tu nous parles, puisque vous avez été condisciples de même année, hein, de même année au TNS, condisciples du même groupe, sauf erreur, je ne fais pas de bêtises, hein, c'est bien ça. Bon, qu'est-ce qui se passe quand on joue ces pièces didactiques, ou qu'est-ce qu'on cherche à obtenir qui se passe, qu'est-ce qu'on espère qui puisse se passer chez ceux qui jouent ces pièces, voilà. Cette question, parce que c'est très délibéré comme objectif là chez Brecht, beaucoup plus que chez aucun de ceux dont nous avons parlé. En tout cas, on a des déclarations d'intention beaucoup plus explicites. Qu'est-ce qu'il attend ? Qu'est-ce qu'on peut attendre du fait que des gens jouent ces pièces ? Qu'est-ce qu'on peut même observer ? Qu'est-ce qu'on peut, je sais pas, quel est ton point de vue là-dessus ?
J'ajoute une petite chose à ça, mais en sachant qu'en plus, dans ton TNS, vous êtes des amis.
Oui. Mais
Oui, mais je crois qu'il y a, quand il écrit ça, bref, en 1930, le théâtre est un certain, est dans un certain moment de son histoire. Il se trouve que entre le moment où il écrit ça et le moment où je dis ça, d'abord, ben, le théâtre a considérablement évolué. Brecht, il a une véritable, il fait une véritable fixette, enfin une fixation, il a une obsession, c'est d'en finir avec le processus identificatoire. Dans tous ses textes, ça revient obsessionnellement. C'est quelque chose que je n'ai jamais bien compris chez lui. Je ne sais pas pourquoi il y en a autant contre l'identification. Que se passe-t-il chez lui, enfin tel qu'il l'exprime, et je parle là sous votre contrôle, hein, parce que, enfin, du coup, ça m'a rien à faire de Manu. Mais enfin, il est quand même, il me paraît, de se revenir comme une mouche sur un problème, alors que c'est un problème que, dans mon expérience à moi du théâtre, qu'il soit de spectateur ou d'acteur, n'existe pas. Personne au théâtre aujourd'hui, mais dans les années 70 c'est pareil, ne s'identifiait à quoi que ce soit. Ni le spectateur à un personnage, ni l'acteur à un personnage. Enfin, ça, c'est cette affaire est derrière nous depuis 50 ans. Bon. Alors, aujourd'hui, il y a les bandouilles qui vont dire je vais rentrer un peu de mon personnage. Enfin, c'est un fada, quoi. Bon. Hein, ça n'existe pas. Alors, il faut vraiment être marteau. Là, il y a un présupposé qui laisserait entendre que, indépendamment du texte qui est écrit sur le papier, il y aurait une espèce d'ectoplasme qui aurait un passé, un avenir, des sentiments, des machins, tout ça, et dans lesquels il faudrait se mouler, se couler. Le comédien devrait rentrer là-dedans. Bon, ça, c'est une vieille lune, ça ne marche pas. Le théâtre ne marche pas comme ça, soyez pourquoi je n'en ai pas l'expérience. Alors peut-être que pour Brecht, cela existait-il, on va dire encore. Mais je suis vraiment étonné, hein, parce que, en tout cas, dans l'histoire du théâtre, il y a mille et un indices qui nous prouvent que les possibilités d'identification étaient quand même minces. Identification, c'est-à-dire se prendre. Prendre, être altéré totalement par, par une identité qui m'est extérieure. C'est-à-dire de devenir, comment dire, s'incorporer un fantôme. Enfin, qui fait ça, il devient fou, simplement. L'identification prise au pied de la lettre est simplement un des stades quand même très très avancés de la folie. Bon. Donc, c'est un terme qui est quand même très très chargé, dont je ne doute pas que vous allez certainement m'éclairer, me montrer que je suis totalement à côté de la question, mais enfin, je me dis, chez les Grecs, ça ne marchait pas comme ça, les représentations se passaient en plein jour, hein, avec des coutumes, des masques, de la musique, etc. Enfin, bon, je ne sais pas à quoi ils s'identifiaient, les malheureux Grecs. Même chez les classiques français, ça se passait à la lumière de bougies, dans la fumée, sur des aires de jeu qui n'étaient pas plus grandes que ces de quatre tables. Ça, c'était à peu près 4 mètres sur 4, avec des gus qui étaient pendant un siècle et demi, hein, qui étaient assis, qui venaient avec des chiens, qui déconnaient, qui arrivaient en retard. Ils se battaient dans la salle. Enfin, bon, les possibilités même d'identification avec quoi que ce soit, c'est-à-dire de s'incorporer l'identité d'un personnage qui était en face de nous, était quand même, en mon sens, quand même très très mince. Bon. Alors je ne sais pas de quoi il parle, Brecht, je ne sais pas où en était le théâtre au moment où il écrit tout ça, mais il me paraît vraiment se batailler avec quelque chose que je ne connais pas. Je sais pas. Donc je me suis interrogé, je me suis dit, mais enfin, je pose la question, je n'ai pas de réponse, mais je dis, mais pourquoi il en tient tant, pourquoi il tient tant à défaire l'identification, laissant supposer que toute forme d'empathie avec ce qui se passe au cœur de la représentation suspendrait le jugement du malheureux spectateur. C'est-à-dire que le spectateur serait dans un état, d'ailleurs il en parle, dans un état d'hypnose tel qu'on pourrait lui faire avaler des couleurs. Moi je n'ai jamais vu ça, hein. Je ne l'ai jamais vécu. Et en tant que comédien, bien entendu, je ne l'ai jamais pratiqué. Alors qu'il y ait, évidemment, une modification là. Tout à l'heure, dans ton ouverture, tu
aborder la question du jeu, dont on va être amené à parler de ça, qu'est-ce qu'il en est de l'identification, qu'est-ce qu'il en est du jeu, etc. Tu me demandes ce que j'ai appris. Je dis par la négative, j'ai appris que le théâtre pouvait être autre chose que ce que je croyais. Évidemment, c'est assez décapant de travailler ce genre de texte, c'est aride, c'est ardu, c'est sec, c'est dur, c'est... Bon, il faut vraiment faire un gros effort pour rentrer là-dedans. Mais il y avait un autre élément, au-delà de la poésie comme ça, de l'écriture, dure pour le comédien, il y a un autre élément, c'est que moi j'étais un astrologiste. Et il est clair que si je devais, non pas m'identifier, mais enfin soutenir une cause, c'était celle du jeune camarade. Évidemment, absolument, d'une obscénité totale, ce jugement fait par les propres bourreaux qui viennent raconter à un cœur de contrôle qu'ils ont été obligés de descendre et de supprimer complètement, puisqu'ils l'ont jeté dans une fosse à chaud, jeté un jeune camarade qui a lui-même succombé à la tentation de la pitié. La pitié étant une saloperie, évidemment, comme chacun sait. Je parle de façon assez négative de ce texte qui est pour moi peut-être effectivement, peut-être on l'a dit, mais peut-être le texte central du XXe siècle, ne serait-ce que parce qu'il met en scène les procès staliniens. Il les met en scène en 1930 alors qu'ils ont à peine commencé. Enfin, c'est quand même extraordinaire. C'est du bien extraordinaire. Donc, quand il s'agissait de travailler ça. Et que j'étais élève, je ne pouvais qu'être absolument, comme la plupart des membres de la classe, absolument affolé par la justification du crime, on pourra le prendre comme on voudra, qui est dans la pièce. Le jeune camarade est liquidé et il donne son accord pour être liquidé. Non, c'est une pièce, il faut la lire, hein, si vous ne l'avez pas lu, il faut la lire, c'est extraordinaire. À partir de là se pose un certain nombre de problèmes. Et comme toutes les bonnes leçons, elles sont... Moi, je pense que ce que j'ai aimé dans cette pièce... Alors, je ne dis pas... On pourra parler du jeu, hein. Mais je mets tout un peu dans le même paquet. Qu'est-ce qui est fascinant dans cette pièce, quand même, c'est qu'est-ce que Brecht veut liquider, quand même. Pourquoi le sacrifice est au cœur de ce des dispositifs des pièces didactiques chez lui. Il faut quand même bien se poser la question du sacrifice. C'est pas possible autrement. C'est la raison pour laquelle j'avais monté... mis en miroir, et pas une seule fois, plusieurs fois, Abraham sacrifiant, et la décision. C'est clair qu'il s'agit dans les deux cas, mais dans l'importance d'un premier accord, c'est pareil, il s'agit bien d'un sacrifice, tout à l'heure, Georges Manu parlait également du sacrifice dans celui qui nuit, celui qui nuit. Bien, chez Müller, c'est pareil. Donc, qu'en est-il du sacrifice dans les pièces didactiques, et qu'est-ce que ça a à voir avec la justice? Qu'est-ce que ça a à voir avec la vérité? Qu'est-ce qu'on sacrifie quand on sacrifie dans une pièce qui est censée dire la vérité? Le dispositif de Brecht dans la décision est un dispositif d'emboîtement, et pas qu'une fois, plusieurs reprises. On va dire que c'est du théâtre dans le théâtre, et pas qu'à une seule reprise. Il redouble incertainement la musique, hein, extraordinaire. Du coup, la leçon est mise en crise par un processus, par un procédé d'ironisation, forcément, puisqu'il y a du théâtre dans le théâtre. Hein. Pour ceux qui n'ont pas vu la pièce très rapidement, ce sont quatre agitateurs qui reviennent de mission, ils vont être félicités par un cœur de contrôle, pas comme ça, un cœur de contrôle. Pas oublier que pour Brecht, lui, dans son idéal, le public devait être lui-même un cœur de contrôle, donc il met le public en scène. En réalité, c'est du théâtre, on dit, il n'y a pas de public, mais en réalité, c'est comme s'il faisait penser à une réduction de la forme théâtrale, de la structure théâtrale traditionnelle. Public, mais le public sur scène, et là, en tant que contrôleur, cœur de contrôle, et il y a des acteurs qui reviennent de mission et qui disent, ben voilà, non, attendez, ne nous félicitez pas, il s'est passé un truc, il faut qu'on vous dise un truc, on a été obligé de tuer un jeune camarade. Ah bon, ben alors, c'est à peu près comme ça dans le texte, montrez-nous ce qui s'est passé et nous vous donnerons notre jugement. Le cœur de contrôle va donc juger les quatre agitateurs qui, pendant 7 ou 8 séquences, je crois, vont montrer ce qui s'est passé. Ils vont faire donc une sélection, une séquence, et ils vont montrer les moments cruciaux, les moments emblématiques qui vont conduire à la nécessité de faire disparaître le jeune camarade. Ces séquences sont ponctuées de musique, de chants, à chaque fois commence pour le, toute chaque séquence commence par une présentation. Ben voilà, maintenant nous sommes à je ne sais pas où, à Moudel, on est arrivé au poste frontière, voilà, bon, ben alors il y en a un de nous qui va jouer le jeune camarade, nous on joue le responsable de la section du parti, etc. Voilà. Et il y a des petites scènes qui se passent sous l'œil, le regard, l'écoute du cœur de contrôle. In fine, le processus de théâtre dans théâtre, quand il touche à sa fin, la nécessité impérieuse, définitive, incontestable et incontestée de liquider le jeune camarade est prouvée, est assumée, sanctionnée, tout va bien. Tout rentre dans l'ordre. C'est donc un type qui est mort, dont il faut légitimer, dire c'est la loi, ce qui était exceptionnel, la mesure, qui était une mesure d'ordre exceptionnel, va rentrer dans la loi, dans celle du discours, dans celle qui est élaborée à partir d'un corps de doctrine. Hein, les classiques du marxisme, ça revient en permanence. Donc il y a là un dispositif tout à fait étonnant. Et à l'intérieur même de ce théâtre dans le théâtre, à un certain moment, il y a même une scène où les agitateurs demandent aux jeunes camarades de leur prouver qu'il a raison. Donc on a du théâtre dans le théâtre dans le théâtre. Ben, c'est dingue, hein, c'est fortiche. Hein. Alors évidemment, le procès qui conduit à la nécessité de tuer le jeune camarade est instruit par ceux-là même qui l'ont tué. Alors, évidemment. Or ça ne peut pas échapper aux spectateurs que je suis. Ça échappe manifestement au cœur de contrôle, hein, parce qu'on pourrait demander, écoutez les gars, on demandait des preuves et pas simplement des arguments comme ça. Le jeune camarade ne peut pas se défendre puisqu'il est toujours représenté par un de ses bourreaux, un de ses assassins. Donc, mais ça ne peut pas échapper au spectateur qui est à l'extérieur. Donc, si la mise en scène est un peu négligente, mais c'est hein. Bon, on voit bien comment ça fonctionne en circuit fermé. Et je ne dis pas que c'est une mauvaise pièce, hein, c'est pas ça, c'est un circuit très très pervers. Ce qui se passe là-dedans, à mon sens, hein, j'en aurais fini, mais c'est comme si cette pièce était un hyperdrame. C'est comme si on avait la structure du drame condensée en quelques pages, ce sont des pièces extrêmement courtes, qui mettaient un point final, semble-t-il, un point final à ce qui pourrait en être de l'aventure du drame, comme ce que tu dis dans ton excellent texte sur le drame concernant la décision. Ça s'appelle la décision.
Qu'est-ce que ça veut dire, Dimaslam?
Non, c'est la mesure.
C'est la mesure. En quel sens?
Les mesures qu'on prend. Prise de mesure. Donc c'est l'exception, la mesure exceptionnelle. Hein, comme donc on est dans un état d'exception, contrairement à
l'ailleurs, il y aura à Auschwitz, on dirait, et où effectivement il y a le sens de bâtir la règle, le nomos.
Ouais, exactement. Et donc il faut faire rentrer ça dans la loi. Toute la tentative de Brecht dans la décision, c'est de faire rentrer l'exception dans la règle. Il y parvient. Hein. Si on est un peu rapide,
oui, c'est toujours le cas singulier.
Le jeu, moi j'ai une seule expérience, mais elle a duré 10 jours, là, donc avec ce stage, avec ces acteurs africains, je pense que l'écriture des pièces didactiques, certes, c'est s'affronter un texte sec, très valide, comme ça, mais elle permet aussi une très grande liberté d'attaque du texte, dans le sens où chacun peut jouer de manière indifférente tous les rôles. Et donc, ce qu'on a découvert en travaillant avec ce groupe africain, c'était que le risque était de tomber dans le piège d'une semi-réalisme en cherchant un enfant, un jeune garçon, pour jouer dans celui qui dit oui et celui qui dit non. Donc, après avoir réfléchi longtemps, on s'est rendu compte que ce qui était extrêmement intéressant dans le principe même de la convention des pièces didactiques, c'est que homme ou femme, gros ou maigre, puisse jouer n'importe quel rôle. Parce qu'au fond, c'est une le jouer, c'est interroger une situation.
Oui.
Donc, dans les pièces didactiques, ce que fait Brecht, à mon avis, c'est il fait l'économie complète, mais absolument complète, de la notion de ce qu'on pourrait dire de caractère. Donc chacun est un argument oui. dans le débat. Donc, et finalement, c'est une longue discussion, et c'est pas les enfants qui manquaient à l'Afrique, donc on en avait, donc on voulait sous les yeux à côté du lieu de travail. Et finalement, après une longue réflexion, tout le monde s'est mis d'accord pour dire, si on prend un enfant pour jouer celui qui dit celui qui dit non, on tombe dans une autre esthétique qui n'est pas une esthétique de l'interrogation par la pratique, mais c'est une esthétique spectaculaire où